Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Monsieur Alfred Sirvin.
Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Voilà. Tribunal.
Actuellement, à l'exposition Colonia, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Le système a été créé par le général de Gaulle.
Voilà.
De Gaulle.
Notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts?
De Gaulle.
Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Quels sont
les intérêts? Jacques Chirac m'a dit.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Fabrice et Nicolas. On va commencer avec Nicolas, qui tous les deux abordent un même sujet, mais par deux biais différents. Nicolas, qui a monté un spectacle qui s'appelle Elf, la pompe Afrique, et qui revient sur le procès Elf, cette espèce d'énorme machine et d'énormes sommes de malversation qui vont pomper là une partie de l'argent issu du pétrole en Afrique.
150 millions d'euros.
Exactement.
Alors,
est-ce qu'en en quelques mots, tu peux nous resituer ce qu'était ce procès Elf, ce qu'il a révélé comme scandale qui devait faire 40 fois exploser la République?
10 fois la République. C'est des propos qu'on prête à Alfred Sirvin, ça, le fait de pouvoir faire sauter 10 fois la République. Le procès Elf, ça a été 8 ans d'instruction, et 4 mois de procès. Alors, ce qu'on a retenu, c'est certains volets, et en général, pas les plus significatifs. On a notamment retenu l'affaire des chaussures de Roland Dumas, de Viejoncourt et de la putain de la République, des choses comme ça un petit peu anecdotiques, mais qui passent bien dans les médias, parce que c'est un petit peu croustillant ou que ça peut évoquer des choses. Hein, quand on dit, oh, regardez, Roland Dumas, il a acheté des chaussures très chères, c'est pas bien. C'est pas du tout le procès auquel j'ai assisté. Moi, j'ai assisté à un procès dans lequel il y avait 37 prévenus, dont un certain nombre de personnalités dont on a retenu les noms, Loïc Le Floch Prigent, Alfred Sirvin, André Tarallo. Et ces gens-là étaient accusés par la.
Disons que la colonisation française et la colonisation britannique.
D'avoir détourné des biens, qui étaient des biens publics, pour des fins personnelles. Biens publics parce que Elf était une société publique. Créé par la Ve République du général de Gaulle pour normalement les besoins énergétiques de la France. Et quand M. Philippe Jaffray est arrivé à la tête de Elf, nommé par M. Balladur, il a dénoncé ses anciens collègues, M. Le Floch Prigent, qui était son prédécesseur, notamment, et a dit, bon, bah, regardez, Elf, c'est pas bien, ça. Il y a des gens qui se sont servis dans la caisse.
Et pour quelle raison il fait ça à ce moment-là? C'est que la Ve République veut d'un coup se redorer le blason et faire table rase de toute... de tout ce qui s'est passé les années précédentes?
Alors, très bonne question. En réalité, il s'agissait pour M. Jaffray, qui était un fidèle d'Édouard Balladur, de faire un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment. On voit le schisme de Villepin et Sarkozy, dans lesquels les uns et les autres sont prêts à tout pour accéder au pouvoir ou pour le garder. Donc, quitte à foutre le feu aux banlieues, quitte à... que sais-je, je ne sais pas tiens, pourquoi je parle de foutre le feu. Bon, enfin bref, peu importe les moyens. Il s'agit de détruire l'autre. Et là, l'idée qui avait été trouvée, c'est de saborder la machine à financer le parti gaulliste, qui était Elf, parce qu'en détruisant Elf, Balladur espérait détruire Jacques Chirac, qui n'aurait plus les moyens. Chirac était à l'époque, souvenez-vous, des sondages déclarés comme l'outsider pour les élections de 1995. et selon les calculs de Balladur, détruire les quelques réserves officielles du RPR, c'était détruire Chirac.
Balladur, qui de son côté a financé sa campagne avec la caisse noire de Matignon.
Oh bah, Balladur, dont le directeur de la campagne était l'ancien directeur de la communication d'Elf. Hein. Faut pas non plus se leurrer là-dessus. Non, il s'agit simplement de. C'est une partie d'échec. C'est une partie d'échec. Ce qui a été sacrifié, c'est la plus grosse boîte de France. Elf, c'était la plus grande entreprise de France. Et donc le dirigeant, en se retournant vers la justice, dit « Regardez, ceux-là, ils ont fait des choses très, très, très mal. » Effectivement, ils ont dénoncé pour 150 millions d'euros. Cette accusation était lourde. Surtout que, d'ailleurs, il se trouve que M. Philippe Jaffray est parti avec 50 millions d'euros de stock options et autres primes de départ. Donc il savait de quoi il parlait. Il y a quelque chose d'assez sain. Mais ça, c'était légal, les stock options, les primes de départ. Il a un petit peu inauguré ce système-là. C'est un peu comme le transat qu'on vous offre à la retraite. Vous savez, les cadeaux de départ, les machins comme ça. Sauf que là, on se l'offre soi-même. On est moins déçus. Il y a cet aspect sympathique et convivial. Et là, il a donc dénoncé auprès de Madame Eva Joly, notamment, les pratiques de ses prédécesseurs. En assistant au procès, moi, je me suis rendu compte que... Moi, j'étais parti voir effectivement comment on rendait la justice dans ce pays. Après un travail... j'avais fait peu de temps avant un travail en radio, justement, sur la prison, sur cette monstruosité qu'est la prison. Et j'avais envie d'assister à un procès, à ce qui se passait dans un palais de justice pour savoir comment on rendait la justice dans ce pays.
T'as pas pris le plus simple ?
Non. Mais par contre, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'assez significatif dans ce procès. Et puis je croyais qu'il y avait aussi quelque chose de théâtral là-dedans. J'avais l'intention de faire un truc théâtral un petit peu quelque part. Et il me semblait que là-dedans, il y avait quelque chose d'un peu gros, d'un peu énorme qui pouvait servir de spectaculaire, quoi. J'ai assisté au procès Juppé après, ou dans le même état d'esprit. Mais là, il y avait effectivement cet aspect spectaculaire de ces personnes qui se défendaient, plus ou moins bien, qui ne comprenaient pas du tout d'ailleurs pourquoi ces personnes-là étaient là alors que leur successeur avait procédé de la même façon et que leur prédécesseur avait procédé de la même façon. Donc ils ne voyaient pas trop ce qu'on pouvait leur reprocher. On a appris notamment au détour de ce procès que le Floch Prigent disait, vous savez, moi, à Rhône Poulain, qui est à la SNCF, à Gaz de France, c'est des entreprises qu'il a dirigées qui ne sont pas les pires. Hein. Ça se passait de la même façon. J'ai soulevé des couvercles, disait-il, d'où s'échappaient les mêmes odeurs nauséabondes. C'est un fonctionnement de la République, un fonctionnement des entreprises publiques qui était dénoncé là-dedans. Et ce qu'il y avait d'assez étonnant, c'est qu'en arrière-fond, en arrière-plan, il y avait ce pays, ce machin, là, ce territoire où on va faire nos courses de bagnole, là, comment vous appelez ça, l'Afrique, le petit patelin là, derrière Paris, quoi, dans lequel on pouvait aller se servir et prendre du pétrole et le revendre ici et puis en toucher les bénéfices. J'exagère à peine quand je dis ça. C'est évidemment énorme, mais tel que ça apparaissait dans le procès, on l'évoquait à peine. On parlait de l'Afrique comme des différents pays. Bon ben, d'Omar Bongo, du Gabon, Omar Bongo, c'est un collaborateur d'Elf, quoi. C'est un employé d'Elf.
C'est la suite des colonies.
Bien sûr.
Elf s'est substitué aux colonies, enfin l'organisation des colonies. Ça s'est fait sur ça.
Alors ça, c'est ce que ça a révélé. Mais ce qui était, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que vraiment ça m'a révélé. Mais ce qui était étonnant, c'est que tel que c'était annoncé au cours du procès, c'était assez badin, quoi. C'était évident, c'était connu de tout le monde. C'était des choses, c'était assez sain même de se servir de l'Afrique pour ça, quoi. Donc il y avait ce deuxième plan qui était en toile de fond, je dirais, et entre les deux, il y avait tout le système de la politique française qui était exposé. On nous expliquait qu'il était tout à fait évident qu'une entreprise comme Elf servait à financer les partis français via ces gens comme Omar Bongo, comme les différents présidents de. On a évoqué le Cameroun, on a évoqué le président Lissouba, on a évoqué. Ces gens-là étaient nos collaborateurs dans le fonctionnement de la Ve République.
Si je comprends bien le système, c'est-à-dire que le ELF versait des commissions localement en Afrique qui étaient en partie rétrocédées à l'appareil politique français, exception faite de, je crois qu'ils disent, du PC et du Front National. C'est-à-dire que
malheureusement, pas du PC.
Pas du PC. C'est-à-dire que les partis qui exerçaient le pouvoir se voyaient rétrocéder une partie de l'argent que versait ELF en commission, c'est ça?
Exactement. Et c'était considéré comme tout à fait normal, tout à fait évident. Donc moi, j'ai assisté à ça pendant 4 mois. J'ai assisté à ce procès pendant les 4 mois qu'il a duré. C'était au printemps 2003, au même moment que se déclenchait la guerre en Irak. Donc il y avait une étonnante résonance entre ce pétrole dont on parlait là et la guerre qui était organisée pour un autre pays et pour aller dans d'autres régions de la planète. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Comment on se sert de cette manne pour faire fonctionner quelque chose qu'on appelle ici une démocratie.
Je vais essayer d'être très bref, bien que ça prendrait beaucoup de temps. Je suis un économiste. J'ai fait de l'économie parce que je pensais que c'était le moyen de lutter contre les problèmes de la misère et de la faim. Et le prix Nobel Amartya Sen, prix Nobel d'économie, a achevé de me détromper en disant dans la longue histoire des famines du XXe siècle, il n'y en a pas une qui ait eu lieu dans un pays qui ait eu un minimum de démocratie et de liberté d'expression. Le problème de la faim, c'est le problème économique majeur. Or, nous explique Amartya Sen, c'est un problème politique, parce que la démocratie et la liberté d'expression, c'est pas un problème d'irrigation, c'est pas un problème de variété de riz. Et pour moi, observant les réalités africaines depuis longtemps, je suis persuadé que le problème principal de l'Afrique, c'est un problème de légitimité politique. Je cite souvent cet exemple de ce coopérant du programme des Nations Unies pour le développement qui allait en Inde auprès d'une population misérable. Et cette population lui dit « Nous voulons construire un temple ». Le gars disait « Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous aider à sortir de la misère ». Alors les gens ont tellement insisté qu'il a construit ce temple et il s'est aperçu que pour cette population, c'était le lieu des décisions légitimes, leur maison commune, qu'une fois qu'ils pouvaient se réunir pour prendre des décisions légitimes, ils les prenaient et qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Bon, aujourd'hui, en Afrique, il y a toutes les ressources humaines, politiques, toutes les ressources financières, naturelles, pour que, au lieu de ruiner en permanence ces pays, comme le font des gens comme Idriss Déby ou Sassou Nguesso, etc., on aille de l'avant. Le problème, c'est que notre gouvernement n'a passé son temps à soutenir des dictatures qui n'ont aucune légitimité et qui oppresse et ruine ces pays.
Voilà, c'était un extrait de François-Xavier Verschave. C'était lors d'une conférence à Sciences Po Lyon en mai 2004. Si on a passé quelques extraits de François-Xavier Verschave, c'est parce que à nos côtés il y a Fabrice qui est militant de Survie. Alors avant de parler de ELF et de cet aspect de la France-Afrique, on peut peut-être dire quelques mots sur François-Xavier Verschave qui est décédé il y a quelques mois, mais qui a été l'intrépide animateur de Survie. Peut-être on peut revenir sur ce projet initial qui était Survie et comment ça a évolué.
Oui, François, il a fait partie des personnes qui ont créé Survie au milieu des années 80. Survie qui, à l'époque, avait un but assez consensuel, qui était de lutter contre l'extrême misère dans le monde et d'essayer de contribuer à ce qu'une part plus importante des budgets nationaux aille directement à des projets pour lutter contre l'extrême misère. Et très vite, les militants qui sont descendus dans la rue, qui ont réussi à convaincre des maires, des joueurs de foot, de signer un appel pour cette campagne qui s'appelait donc « Pour la survie et le développement », se sont rendus compte qu'il y avait des obstacles très importants en France lorsqu'on voulait changer un petit peu le système de l'aide publique. Donc malgré le fait que toutes ces personnalités ont appuyé ce projet de loi, y compris des députés, ce projet de loi n'a jamais été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et les militants de survie à cette époque se sont rendus compte qu'il y avait un problème central qui était la corruption dans les relations franco-africaines et qu'on ne pouvait pas toucher à l'aide publique comme ça, que l'aide publique ne servait pas à autre chose que ce que pourquoi elle était faite. Donc c'est comme ça que François et d'autres ont découvert quelques scandales politico-financiers, les soutiens que la France a pu apporter à tel ou tel conflit en Afrique, les fournitures d'armes, les détournements d'aide publique. Et c'est ce système que François-Xavier a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire la France-Afrique, hein, qui est là pour détourner du fric. Donc il y a eu le génocide au Rwanda en 1994 qui a montré un petit peu toute l'horreur qui pouvait découler d'un tel système. Et petit à petit, François a eu un rôle majeur, c'est qu'il a réussi à décrypter en fait tous ces mécanismes complexes que Nicolas évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ce financement occulte, ces intérêts personnels croisés entre des chefs d'État, des partis politiques français, de l'argent qui vient, qui disparaît, du pétrole qui est extrait, mais on ne sait pas en quelle quantité. Donc François-Xavier, il a réussi à finalement à trouver un petit peu des liens logiques, à trouver une espèce de fil directeur que cette politique-là, en fait, elle est là pour servir les intérêts d'une minorité et que ceux qui essaient de chercher dans la politique africaine de la France le but d'apporter de l'aide aux populations font fausse route. Cette dette publique, quand elle n'a pas été conçue pour ça. Et la France-Afrique, c'est un peu l'explication en des milliers de pages, hein, parce que François a écrit énormément de ce système.
Alors, ce qui est étonnant de la manière dont j'ai vu le parcours de survie et de François-Xavier Verchat, parce que j'ai l'impression que ça se mélange, que ça se confond, c'est qu'au départ, il y a un point de vue plutôt humaniste, plutôt ONG un petit peu dans la démarche, et que ce qui va être révélé, ce que leur travail va permettre de révéler, va profondément radicaliser leur position. Moi, je me souviens d'avoir entendu François-Xavier Verchave sur le Rwanda, c'était d'une excessivement vigoureux, violent, sur le rôle et le fonctionnement de l'État français. Est-ce qu'il y a, tel que je l'ai vu, ce parcours et ce basculement à un moment donné vers une opposition bien plus franche que celle qui était au départ?
Mais c'est un discours qui a jamais perdu son humanité. Et au contraire, plus on va dans les confins de l'inhumanité, plus le discours devient radical. Mais ce qui fait que le discours est radical, c'est qu'on se heurte à des choses de plus en plus violentes, à des choses de plus en plus inhumaines, en fait. Donc, par rapport à ceux qui ont pu dire que François-Xavier était animé soit par une volonté de critiquer à tout prix, soit parfois certains ont même pu dire que c'était de la rage, de la haine. C'était pas du tout ça. C'était au contraire la volonté de vraiment de concevoir des nouveaux rapports humains, de lutter pour la justice, contre la pauvreté. Et donc évidemment, quand le discours est à ce point caricatural en face, quand les pratiques sont aussi inhumaines, aussi désastreuses, il y a une montée en radicalité qui se fait. Elle est logique, en fait. C'est François-Xavier, il appelait ça le devoir d'indignation, en fait. On ne peut pas rester dans notre petit confort individuel. À un moment donné, si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nient à ce point notre statut d'être humain, il faut qu'on s'indigne. Et c'est ça, en fait. La survie, c'est le devoir d'indignation.
Parce qu'on a l'impression que c'est un puits sans fond. À chaque fois que vous ouvrez un tiroir de ce qui se passe en Afrique et des rapports Afrique-Occident et de l'Afrique avec la France en particulier, c'est un puits sans fond. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on gratte, c'est pire. Enfin, oui. je dis ça entre autres sur l'exemple du Rwanda où le...
Bien sûr, mais on peut quand même penser que ce travail-là, il porte aussi ses fruits, parce que maintenant, quand des journalistes emploient le terme France-Afrique, beaucoup de gens savent ce que ça représente. Et maintenant, même quand on parle du Rwanda, le rôle de la France est... c'est une opinion communément partagée que la France a eu un rôle néfaste au Rwanda, ce qu'on ne disait pas il y a quelques années encore. Donc, ce travail-là, il a porté ses fruits en grande partie. Après, il y a aussi des épisodes récents qui nous ont montré qu'il y avait encore du boulot, notamment ce qui s'est passé au Togo, où la France a largement cautionné un coup d'État électoral qui était des plus caricaturaux. Enfin, ou même des journalistes qui ont vraiment fait leur boulot. Hein. Il y a eu des journalistes qui ont vraiment couvert ça, qui ont expliqué tous les détournements qu'il y a pu y avoir, le trafic des urnes, etc. Bon, mais la France a quand même réussi ce coup de maître qui est de valider ce coup d'État. Donc bon, il y a encore des rechutes très graves, mais globalement, on est quand même sur une évolution positive par rapport à tout le travail qui a été investi là-dedans, quoi.
Et justement, ce travail, comment il peut s'articuler avec, par exemple, un spectacle comme celui de Nicolas ? Comment vous, à Survie, vous travaillez avec Nicolas ? Qu'est-ce que ça apporte à l'association ?
L'articulation, elle est indispensable, parce que toute la difficulté, en fait, pour réussir à faire changer le regard de nos concitoyens sur l'Afrique, c'est de trouver les mots qu'il faut. C'est de les intéresser à l'Afrique, déjà, c'est quand même un sujet assez complexe. Les intéresser ensuite à tous ces réseaux politico-financiers, ce qui est vraiment très, très difficile. Survie, pendant très longtemps, a édité des livres qui étaient des livres de référence, mais qui comptaient 600, 700 pages. Avait un journal, Billet d'Afrique, qui existe toujours, mais qui était quand même réservé à une certaine élite. Donc, on s'est rendu compte quand même il y a quelques années que pour vraiment changer les choses, il fallait que ce soit le grand public dans son ensemble qui se dise que ça peut pas continuer comme ça. Donc, on a commencé à rencontrer des artistes, avant Nicolas, des artistes aussi, des chanteurs comme Tikanja Fakoli, qui, à travers leurs textes, font passer beaucoup de choses. Puis la rencontre avec Nicolas, elle s'est faite il y a 2 ans à peu près. Et puis, lui connaissait Survie, nous on a découvert son spectacle et tout de suite on a organisé pas mal de dates ensemble avec des débats aussi. Nicolas diffuse l'information de Survie dans chacun de ses spectacles, participe aux débats qui ont lieu après, ça c'est très important. Donc cette connexion elle continue. Et pour nous, c'est sûr que c'est indispensable de toucher le public là où il se trouve.
Nicolas, toi, c'est quelque chose que tu avais envisagé dès le départ, même au début, quand tu es allé au procès, puis quand tu as conçu le spectacle, c'était un spectacle conçu pour qu'il y ait des débats derrière.
Oui, en fait, la question qu'on se pose quand on a la chance d'avoir un micro sous le nez ou quand on a la chance d'avoir une scène sur laquelle on peut dire des choses, c'est qu'est-ce qu'on a à raconter et pour qui ? Et moi, ça fait un petit bout de temps que mes petits camarades avec qui je fais de la radio, avec qui je fais du théâtre, on se pose la question de l'utilité et d'une part de l'utilité de ce qu'on fait et d'autre part du public. Comment on fait pour toucher le public ? Comment on fait pour toucher le public sur des choses qui nous semblent essentielles ? Quand on participe à des forums sociaux, quand on participe à des actions un peu importantes, on se dit, mais on est souvent un petit peu désappointé de se dire, mais où ils sont où les gens, quoi, pour qui on raconte ça, pour qui on fait ça, pour qui on réfléchit dans ces trucs-là. Ils sont pas là, quoi. Ils sont en train de bosser, ils sont en train de suer souvent, et donc il s'agit de pouvoir les toucher, les contacter avec un machin qui peut faire chausse-pied, dans lequel on peut glisser un petit peu des choses. Donc moi, en portant ce type de sujet sur scène, il s'agit de rappeler que le théâtre, mais comme le cinéma, la télévision, la radio, etc., c'est pas simplement des outils de divertissement, contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire les grandes entreprises qui s'en emparent depuis pas mal de temps, que ce soit le théâtre ou la radio, etc. FPP est malheureusement une des très très rares radios associatives parisiennes. Il y a très peu de théâtres associatifs à Paris. Il y a beaucoup de théâtres commerciaux, privés. Il y a des théâtres publics, mais qui bossent sans subvention, j'en connais peu. Donc moi là, l'idée c'était de réussir à proposer quelque chose dans lequel on puisse repartir avec ces quelques informations et pourquoi pas à la sortie repartir avec un bouquin sous le bras de Survie ou d'autres bouquins que peuvent proposer d'autres associations, d'autres structures comme Cohérence qui peuvent essayer de donner une information alternative, on va dire. Donc voilà, l'idée là c'était de faire un documentaire théâtral dans lequel on puisse repartir avec des pièces jointes.
Alors, a priori, quand Nicolas nous dit « Venez me voir dans un spectacle où je joue tous les protagonistes du procès Elf, il y aura Alfred Sirvin, il y aura Taralo, et c'est moi qui les joue tous sur 1 mètre carré de scène », on est un petit peu sceptique, mais enfin bon, ça donne ça.
La société Elf, qui n'existe plus aujourd'hui, la société Elf, dirigée à cette époque par M. Jaffray, a donc demandé au tribunal de juger si ces hommes sont, ou non, coupable de détournement d'argent public pour des fins personnelles. Monsieur Jaffray, en arrivant chez Elf, trouvait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, à commencer par les salaires. Par exemple, le salaire de PDG, le sien. Il ne le trouvait pas convenable, il l'a multiplié par 4. Monsieur Jaffré, qui, en quittant Elf, la première entreprise française de l'époque, après l'avoir vendue à son concurrent direct Total, pour un prix raisonnable, s'est attribué une prime. Alors ça deviendra l'usage hein, chez les chefs d'entreprise, on appelle ça le parachute en or, le golden parachute. Coïncidence cocasse, selon mes calculs, la prime que s'est octroyée Monsieur Jaffré semble être égale à l'addition des sommes reprochées pour l'immobilier de messieurs Sirvin, plus Tarallo, plus Le Floch, toutes ensemble.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Monsieur Alfred Sirvin.
Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Voilà. Tribunal.
Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Le système a été créé par le général de Gaulle.
Voilà.
De Gaulle.
Notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts?
De Gaulle.
Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Quels sont nos intérêts?
Mais comme Jacques Chirac m'a dit, ça n'ira pas jusqu'à la mairie de Paris. Je dois avouer que, sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion.
Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci, une entreprise par-là. Mais ça, c'est tout à fait probable. Mais qu'il y ait eu un système où les partis politiques de la majorité et de l'opposition se seraient bien ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau. Bon, si la justice est démontrée, je serai le premier à le condamner. Mais honnêtement, je n'y crois pas.
Monsieur Sirvin, approchez-vous un instant, s'il vous plaît.
Le tribunal.
Confirmez-vous qu'il y a, monsieur, des financements d'hommes politiques français chez Elf?
Ce n'était un secret pour personne qu'Elf servait depuis toujours à ces choses-là.
Quels sont nos intérêts?
Est-ce que toutes les opérations donnaient lieu à des versements de fonds occultes, monsieur?
Que nous découvrions.
Il me semble que vous le savez mieux que moi, c'est la raison de ma présence ici. Nous avions besoin de dégager des fonds.
Quels sont nos intérêts?
Les commissions.
Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Les commissions. Dans le domaine pétrolier, on parle de bonus. Il y en a de plusieurs sortes, les bonus officiels prévus par les contrats. Par exemple, la compagnie pétrolière qui convoite un permis d'exploration s'engage à financer la construction d'un hôpital, d'une école, d'une route.
Si à la fin ça se termine dans un orphelinat, je suis content, mais ça ne se termine pas toujours dans un orphelinat.
Voilà. Peut-être faut-il que je développe un peu.
Impossible,
François Mitterrand,
de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir.
Le tribunal.
Monsieur Loïc Le Floch
Prigent.
Monsieur, vous nous avez bien dit que vous connaissiez l'existence d'une caisse noire destinée à financer les partis politiques.
Tout à fait.
Madame la greffière, notez s'il vous plaît cette phrase. Ne pouvait en être autre.
Tout à fait.
Je l'ai déjà dit, j'ai financé tous les partis.
Enfin, démocratique, à l'exception du Front National.
Je ne peux pas y croire. Je n'y crois pas.
Bon, il est bien évident que si jamais...
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front. Nous sommes avec Fabrice de l'association Survie et Nicolas Lambert, comédien qui joue la pompe à fric.
Lui, on donne son nom de famille parce qu'il y a, enfin, c'est-à-dire sa carrière est en jeu. Faut qu'il se fasse connaître.
Puis Lambert s'est déjà déposé par pas mal de comédiens.
Ouais, puis attends, parce que je voulais à un moment donné, bon, je vais faire maintenant, ça dure pas longtemps, parce que je suis allé sur le site et bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent maintenant puisque j'ai relevé le nombre de médias où tu es passé. Tu es passé dans Libération, Le Monde Politis, le Gris-Gris International, La Vie, Les Échos, Charlie Hebdo, Le Monde Diplomatique, Réforme Sud-Ouest, Pariscope, l'Alsace, Le Courrier de l'Ouest, La Marseillaise, La Provence, La Voix du Nord, Cassandre, au Théâtre Magazine et aussi à la radio, France Inter au moins deux fois, France Culture, France Info, France Bleu, RFI, Radio Nova, Radio Libertaire, TSF, Europe 1, RMC et pour finir, The Voice of America. Et donc maintenant, nous avons la joie de t'accueillir ici.
Excuse-moi, mais Fréquence Paris Pluriel est quand même la première radio dans laquelle je vais. Donc là, c'est
Alexandre.
Un retour aux sources.
Bon, alors moi, j'ai une question plus artistique, on va dire. Comment, en tant que comédien, tu construis tous ces personnages et comment tu t'en sors avec les voix, avec les postures, avec... Je t'en prie, Pierre.
Ah non, c'est juste parce que il faut préciser que le spectacle, on a dit deux mots, mais en fait le spectacle, tu es seul sur scène, voilà.
Avec des musiciens de temps en temps.
Oui, mais enfin c'est les intermèdes. Enfin, ouais. Pendant que tu joues, il y a pas, t'as un bidon d'essence vide. A priori, pour moi, il est vide, mais j'en sais trop rien devant toi. Et en fait, tu interprètes l'ensemble des protagonistes du procès. C'est pour ça qu'Alexandrine posait cette question parce que justement, tu passes de l'un à l'autre, ce qu'on a pu entendre dans l'extrait sonore.
Non, Alexandrine, termine ta question. C'est pas parce que tu te laisses interrompre assez brutalement par Pierre Baron.
Je crois que tu as compris le sens. Simplement, c'est comment un comédien construit un one-man show avec tellement de personnages.
Merci, Alexandrine. Alors, la question que me pose Alexandrine... évidemment en fait moi j'ai assisté au procès, donc c'est une pièce que j'ai donc écrite d'abord pour 10 personnages, mais les 10 personnages peuvent très bien être joués par quelqu'un, par des tas de gens, mais si j'avais eu à mettre, il se trouve que moi c'est la première fois que je travaille complètement tout seul comme ça. Jusque-là, j'ai toujours travaillé avec des metteurs en scène et des tas de comédiens, des tas de gens. C'était un travail de compagnie, la compagnie Charlie Noé. Et dans ce travail-là, d'une part, moi, j'étais à un moment de mon boulot de comédien où j'avais envie de savoir où j'en étais tout seul. Donc, je voulais voir si j'étais capable de tout faire. Et aussi, c'était difficile à monter ou à mettre en scène pour d'autres comédiens parce que j'aurais été très chiant, vu que j'ai vu déjà tout le monde, je sais ce que je veux. Quand tu mets en scène, tu demandes à des comédiens de s'exprimer, d'inventer, d'imaginer, etc. Et là, je leur aurais demandé d'imiter quelque chose que j'avais vu. Donc, ils n'étaient pas capables d'imiter la personne, ni les propos, etc., puisqu'ils les connaissaient pas. Donc, j'aurais été hyper directif, hyper chiant, et ça aurait rien intéressé personne. Et puis, ça m'aurait coûté très cher, parce que 10 comédiens, ça bouffe, un comédien, c'est effrayant. Donc, là... Je me suis directement... Et en même temps, le boulot de comédien, c'est éponge. Hein, moi, je te vois, je vois Fabrice, je vois Pierre. Et à un moment donné, si j'ai envie, je vais essayer de rebondir sur quelque chose et en ressortant les propos qui ont été tenus ou leur attitude ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce boulot-là. Hein, interprète, comédien, c'est à ça que ça sert. Donc, là, et en même temps... Je ne suis pas imitateur, c'est-à-dire je ne vais pas me pointer sur une scène pour faire Chirac, etc. Mais par contre, c'est intéressant, me semble-t-il, moi, d'imiter des gens qu'on croise comme ça. Donc voilà, il y a d'une part eu ce travail d'éponge, et pendant 4 mois, on a vraiment le temps de se familiariser avec les uns et les autres. Même si pour certains personnages, assez curieusement, à la fin du procès, il y en avait vraiment avec lesquels j'avais du mal, vraiment que je n'aimais pas et que j'avais zappé. C'est le cas notamment d'un des personnages là que j'interprète, qui n'était pas ma tasse de thé, c'est André Tarallo. Qui n'était pas à la fin du spectacle, vraiment je l'avais zappé, j'avais oublié qui c'était. Alors j'avais pris des notes sur sa façon de se tenir, sa voix, etc. Et quand j'ai commencé à jouer la pièce, je me suis fait beaucoup de compliments par les journalistes qui avaient assisté au truc, et je me suis fait complètement descendre sur Tarallo. Les gens me disaient, mais c'est pas du tout ça, pourquoi tu fais un personnage comme ça? Et on m'a refilé une cassette à un moment donné du personnage, et je me suis dit, merde, c'est vrai, j'étais passé à autre chose. Donc j'ai retravaillé, et du coup je suis redevenu ce personnage-là. Le travail, il a été vraiment d'éponge. Ensuite, un travail de montage, en fait, pour pouvoir passer, et ça, c'est comme votre boulot en radio, vraiment de prendre tel truc et tel truc, et se dire, tiens, si je fais rigoler après tel truc un peu lourd, ça passera mieux, et si je glisse après tel autre épisode, on va plus facilement le comprendre. Et ben voilà, quoi, c'est comme ça que j'ai bossé. Et comme c'était la première fois que je bossais seul, j'ai aussi bossé avec une caméra. Voilà, j'ai d'abord bossé tout seul dans mon coin, et ensuite je me suis filmé pour voir si ça ressemblait à ce que j'avais vu. Et dès que je me disais, ah oui, ça c'est ça, j'éteignais tout et j'y allais.
Tu t'es vidéo surveillé?
Je me suis vidéo surveillé, absolument.
Juste, moi, je voulais, parce que le temps avance, au-delà du spectacle, revenir au sujet même, avec Fabrice, sur survie et où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui avance? Je sais qu'il y a régulièrement des campagnes qui sont lancées sur survie. Est-ce que... C'est un peu vaste, mais comme ça, tu choisis de quoi tu veux nous parler.
La Survie, aujourd'hui, c'est une association qui a à peu près 1700 adhérents en France. Ceux qui, vu la complexité, un petit peu la technicité du sujet, est plutôt pas mal. Hein. On a un peu plus de 20 groupes locaux en France qui relaient nos campagnes, qui organisent des conférences. Donc, en termes d'implantation et de capacité un petit peu à toucher le public, c'est quand même un réseau assez important. Au niveau du travail, bon, il y a la poursuite de tout le travail qui a été mené sur le Rwanda, hein, sur la lutte contre l'impunité. Et puis, on a un volet très important de l'activité actuellement, qui est un petit peu le soutien au mouvement africain de résistance au colonialisme. Parce que quand Survie est apparu, c'était très difficile pour les mouvements africains d'exister et de dénoncer les choses. Et Survie a servi aussi un petit peu à ces mouvements de porte-voix. Mais actuellement, il y a quand même des luttes qui se structurent un petit peu partout en Afrique. Donc, on va le voir au cours du Forum social mondial qui commence à Bamako, là, demain. On l'a vu aussi lors du contre-sommet qu'on a organisé avec des associations maliennes et des associations d'un petit peu partout en Afrique à Bamako en décembre. Hein. Il y avait le sommet des chefs d'État franco-africains. Nous, on a rassemblé une cinquantaine d'organisations pendant une semaine qui, justement, a essayé de réfléchir à d'autres moyens d'appréhender les relations franco-africaines. Donc ce mouvement, il est important et nous, on y participe de plus en plus. Pour lier un petit peu à ça avec la question pétrolière, c'est vrai que dans la pièce de Nicolas, on évoque l'Afrique, on cite un petit peu les têtes de pont de Elf en Afrique, hein, on cite Bongo, Sassou Nguesso et compagnie, mais en fait, la population africaine est complètement absente. On a l'impression que l'Afrique, c'est juste effectivement une pompe et qu'il n'y a personne qui vit autour de cette pompe. Et en fait, il faut quand même dire qu'il y a aussi des mouvements qui en Afrique revendiquent aussi la souveraineté sur les ressources pétrolières, qui essaient d'imposer à leurs dirigeants et aux multinationales un contrôle plus strict des revenus. Donc il y a des mouvements qui existent là-dessus au Congo-Brazzaville, au Tchad, dans un certain nombre de pays. Donc nous, on est à l'écoute de ces mouvements et on essaie de leur donner un écho aussi en France. Et ça, c'est peut-être une des parties les plus importantes du boulot.
Et d'ailleurs, Nicolas, est-ce que tu es allé jouer la pièce en Afrique? Ou est-ce qu'il y a le projet de le faire?
Ah, il y a un petit projet là qui est en train de se mettre en place, qui serait une sorte de petit Paris-Dakar dans lequel on écraserait des Blancs. et effectivement, là, on est précisément avec Survie, avec Fréquence Éphémère, avec plusieurs partenaires en train de se poser la question de la forme de cette chose-là. Mais effectivement, l'idée serait d'aller jouer ça là-bas, une sorte de croisière blanche pour les aider à comprendre pourquoi la colonisation était un bienfait.
Les aspects positifs pour nous. Un petit peu.
Ouais. Non, et puis le théâtre, c'est quelque chose qui peut avoir un impact vraiment très fort. Au contre-sommet de Bamako, on a fait un concert populaire gratuit justement pour toucher le grand public et non pas seulement, les érudits qui peuvent se payer des livres et assister à des conférences. Donc on a fait ce concert gratuit. Il y avait une pièce de théâtre en ouverture sur la lutte contre les OGM. Et qui était en français avec des traductions en bambara, qui permettait justement d'expliquer de façon pédagogique et ludique au grand public un petit peu ce que c'était les OGM et quel danger ça pouvait représenter pour l'Afrique. Donc je pense que la pièce, elle devrait avoir pas mal de succès là-bas.
Avant de parler du livre et d'écouter un autre extrait, je voulais savoir qu'est-ce que fondamentalement ça avait changé ce procès. Elf a été racheté par Total. Est-ce qu'aujourd'hui, ou dans quelques années, tu vas nous préparer un spectacle Total, la pompe Afrique ou...
Est-ce que ça a changé d'abord pour la République française? C'est que ELF était un outil au service de la Ve République. Total a racheté ELF après que Philippe Jaffray l'ait tellement brillamment dirigé. Avant de partir avec ses 50 millions d'euros, il a tellement brillamment dirigé que ELF s'est fait racheter par son concurrent direct, qui était plus petit. Donc. Et donc aujourd'hui, Total est la plus grande entreprise de France. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent entre cette époque et la nôtre. C'est autant, je crois, qu'à l'époque, ELF était effectivement au service de la République, de l'État, autant il me semble aujourd'hui que l'État est au service d'une entreprise comme Total ou d'autres entreprises. Les différentes puissances que pouvait exercer la France jusque-là étaient détenues par ce type de bras armés. Aujourd'hui, ces bras armés sont autonomes et, de fait, sont plus puissantes que l'État. D'abord parce qu'elles ne dépendent pas que de l'État, ce sont des transnationales, et qu'elles ont porte ouverte dans plusieurs institutions qui sont nos institutions, qui sont la façon dont on est gouverné, notamment la Commission européenne, qui est dirigée de façon non démocratique, comme chacun le sait, puisque personne autour de cette table est capable de m'expliquer comment fonctionne la Commission européenne, qui est l'endroit d'où viennent les différentes recommandations que sont chargées d'appliquer les différents États. Et dans cette Commission européenne, circule un certain nombre de lobbyistes. Corrupteur, ça doit être un mot plus commode, je sais pas. Enfin, ça n'a aucun rapport. Qui sont chargés d'édicter un certain nombre de principes, de façon de diriger l'État. Donc, je crois que la grosse différence entre l'époque que je raconte, qui est pas si éloignée dans le temps, hein, qui est juste avant que Chirac arrive au pouvoir. Et nous, c'est qu'autant il y avait un État avec des outils, aujourd'hui, il y a un État qui est l'outil de ces entreprises-là.
Fabrice, tu fais à peu près la même lecture de cette évolution?
Disons que je pense qu'il y a une des fonctions de ELF qui était très importante, qui était le financement occulte des partis politiques, qui est un petit peu plus difficile maintenant, enfin qui existe encore, mais qui est un petit peu plus difficile maintenant. Et puis je pense aussi que ELF n'est plus la grosse multinationale qui intervient en Afrique, la grosse multinationale française, mais il y a d'autres multinationales comme Bolloré qui prennent de plus en plus de place, dont on entend très très peu parler. Donc finalement, ELF a un peu contribué à cacher toute une multitude de choses qui ont commencé à émerger il y a quelques années en Afrique. Pour le grand public, ELF, c'est le scandale, mais c'est un petit peu passé, mais il se passe plein de choses maintenant et personne n'est au courant. Et puis au niveau de l'Afrique, bon, ELF a gardé quand même, Total maintenant, mais a gardé quand même un pouvoir très important dans un certain nombre de républiques pétrolières, donc comme le Gabon, comme le Congo. Mais il y a un certain nombre d'autres multinationales chinoises, américaines et autres qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique, d'autant que le pétrole est très cher, donc des gisements qui n'étaient pas rentables il y a quelques années le sont. Donc l'Afrique devient effectivement une pompe Afrique pour un certain nombre de multinationales venues d'un peu partout, donc... Même les conflits qui se passent sur place sont un peu différents de ceux qu'il y avait il y a quelques années.
Bon, alors, comme Pierre ne parle pas, Pierre écrit, et il m'a écrit sur un petit bout de papier, Nicolas live. Nicolas est au courant, il va nous faire un petit extrait de ELF, la pompe Afrique.
Alors, à propos de live, il faut savoir que je suis quand même pas tout à fait tout seul sur scène. Hein. Il y a un certain nombre de... Le spectacle est divisé en audiences, et entre chacune de ces audiences, il y a des intermèdes musicaux. Précisément en live. Alors par exemple, on peut entendre Nicolas Bacchus, qui est ce chanteur français énervé, énervant, qui précisément va se produire sur scène dans les minutes à venir. C'est la première ce soir de son nouveau tour de chant auquel je dois assister, sinon je vais me faire engueuler, qui se joue tous les soirs au 20e théâtre à partir de soir. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller vous y rendre. Et voilà, donc ça c'était la page de pub.
Alors, imaginons qu'on vient d'entendre Nicolas Bacchus, la pause est terminée.
Le tribunal en vient à examiner l'une des nombreuses opérations qui ont permis de dégager les commissions occultes alimentant cette caisse noire. L'information a révélé que chaque transaction donnait lieu au versement de commissions à peu près égales à 2,5% des sommes engagées. Ce pourcentage de 2,5% prélevé par contrat, on le retrouvera pratiquement lors de chaque affaire, que ce soit en Afrique, en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. La plus grosse commission que nous ayons à juger est de 256 millions de francs, soit 2,5% d'une opération menée en ex-RDA,
Alors, ces 250 millions de francs ont été versés sur le compte suisse de la société Noble Pack, société appartenant à monsieur André Guelfi. Monsieur Guelfi, s'il vous plaît, approchez-vous de là-bas.
Yeah, je suis là, j'arrive. Voilà, je suis là. Jean Juron.
Bien, monsieur Guelfi, dans cette affaire, comme dans de nombreuses autres, notamment dans les républiques d'ex-URSS ou en Chine, on retrouve votre nom ainsi que celui de vos sociétés. Société domiciliée en Suisse. Vous semblez être un intermédiaire très apprécié chez Elf et...
Négociateur, monsieur le président, négociateur. Moi, j'aime pas du tout le mot d'intermédiaire.
Bien. À l'occasion du versement de cette somme, une partie de la commission vous revenait. Vous avez perçu 13 millions de francs, monsieur Guelfi.
J'ai rien fait, monsieur le président. J'ai juste prêté ma société offshore. Et quand on m'a annoncé que pour me récompenser, on me virait 13 millions de francs, j'étais content, monsieur le président. Pourquoi voulez-vous que je refuse 13 millions de francs?
Et lorsqu'on vous demande de prêter votre société, comme vous le dites, pour recevoir une somme pareille et pour payer des individus, cela vous semble tout à fait naturel, monsieur?
Alors, vous savez, monsieur le président, moi je traitais avec une société d'État. J'imaginais pas du tout que ce dirigeant puisse me demander quelque chose qui ne soit pas correct. Il m'a demandé de payer, je l'ai fait. Je me suis dit, ils doivent avoir leur raison de le faire.
Tout de même, monsieur Guelfi, tout de même. Vous dites au tribunal n'avoir rien fait. 13 millions de francs, monsieur Guelfi. Vous êtes très cher, monsieur Guelfi.
Ah, je vais vous expliquer, monsieur Boyedin, pourquoi moi je dis toujours la vérité. Et un jour, quand j'étais petit, j'ai piqué du chocolat dans le placard à ma grand-mère. Et j'ai fait croire que c'était ma petite sœur. Et ma grand-mère l'a su. Elle m'a passé la bouche avec du piment de Cayenne, monsieur le président. Du piment de Cayenne. Et ben, moi, depuis ce jour-là, monsieur le président. Depuis ce jour-là.
Depuis ce jour-là, vous ne piquez plus de chocolat, monsieur?
Depuis ce jour-là, je dis toujours la vérité. Je l'ai dit à l'instruction, là, la juge, là, madame Eva Jolie, là. J'ai dit, moi, vous pouvez me faire le sérum de la vérité, hein. Et pourtant, j'ai peur des piqûres, monsieur le président. J'ai peur des piqûres!
Etc.
Bravo.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles loin du front qui s'est terminée en live avec un extrait du spectacle de Nicolas Lambert. Et alors, les choses sont bien faites puisque nous sommes une radio non marchande et Nicolas n'avait rien à vendre puisqu'il ne représente pas, a priori, actuellement son spectacle à Paris. Par contre, il y a un site internet où vous pouvez...
Remarquablement bien fait.
Remarquablement bien fait. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le spectacle de Nicolas. Tu nous donnes l'adresse?
Oui, c'est chez vous, c'est sur l'ordinateur, vous savez. C'est dans la pièce où il y a l'ordinateur.
Alors www.unpasdecote.org.
Un pas de côté, c'est le nom de la compagnie. Un pas de côté sans espace, sans accès.
Et puis à nos côtés aussi, il y avait Fabrice de Survie. Survie, on va peut-être donner les contacts. Comment on prend contact avec vous?
Alors il y a le site internet www.survie-france.org. Et sur l'île de France, on a un groupe local qui est assez actif avec 400 adhérents et une quarantaine de militants assez motivés. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site et vous aurez les coordonnées du groupe local de Paris.
Alors, autre chose, vous venez de publier dans les dossiers noirs, qui sont les dossiers noirs de la France-Afrique, le numéro 21, ça s'appelle La privatisation de la violence, c'est chez Agone, je crois que ça coûte 25 €, c'est un gros pavé et c'est absolument passionnant sur les sociétés de sécurité privée qui remplacent, qui deviennent les forces supplétives des armées occidentales, c'est vachement bien fait. Voilà, et alors Jérémy veut qu'on parle d'Afrique 21. Est-ce que tu peux dire deux mots sur Afrique 21?
Afrique 21, c'est un trimestriel qui est publié par plusieurs ONG, syndicats, plusieurs mouvements sociaux qui s'intéressent à l'Afrique. Survie en fait partie, mais il y a aussi la CNT, le CADTM. Et donc, ils ont, le dernier numéro est sorti il y a quelques semaines et il est disponible chez Survie et auprès de la CNT.
Voilà, et si on ne dit pas que Nicolas Lambert sort aussi un bouquin cette semaine, on risque de se faire gronder. Le bouquin s'appelle Elf, la pompe Afrique, lecture d'un procès. Et c'est préfacé par François-Xavier Verschave et c'est aux éditions Tribord, autrement dit, et je laisse la parole à Alexandre. Oui, il y a un CD aussi avec.
Il y a un CD dedans qui sont les émissions, c'est toujours dans l'idée du bonus et de la pièce jointe, et les émissions que Daniel Mermet a consacré à la pièce avec François-Xavier Verchappe.
Oui, pour terminer, ça n'a rien à voir. Donc, on a eu Abdel tout à l'heure au téléphone. Donc, je vous rappelle que le Pizza Hut du Zénith au 191 avenue Jean Jaurès dans le 19e est actuellement en grève. Il y aura donc un rassemblement de soutien samedi prochain à midi. Donc, allez-y. Et puis, d'ici là, vous pouvez quand même passer au Zénith, donc, enfin, au Pizza Hut du Zénith, 191 avenue Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement.
Et surtout, vous pouvez aller dans la petite rue qui est en face, la rue Eugène Jumain, où il y a un Libanais qui est très bien, qui s'appelle Les Saveurs du Liban. Et surtout, n'allez pas bouffer là-bas. C'est à Pizza Hut. Faites juste Pizza Hut.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà, on vous le remet une deuxième fois parce que c'est sûr, c'est nous qui avons le plus beau générique de l'antenne. Alors ce soir, autour des micros, on avait les Lumumba de la Radio Libre avec Fred, Juliette, Alexandrine et Guillaume. Et puis autour des boutons, on retrouvait les Nelson Mandela de la réalisation avec Jérémy et notre deuxième Juliette. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet tout aussi rigolo puisque nous parlerons de Sabra et Chatila puisque deux de nos camarades reviennent d'une mission dans le camp de Chabra et Chatila. Ils nous raconteront un petit peu ce qu'ils ont vu. On est en retard et on s'excuse et on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne. Allez, on range les bières.
Merci Pierre Baron.
Et puis, on a un site internet http://loldf, comme les oreilles loin du front, loldf.free.fr, et vous retrouvez avec à peine quelques semaines de retard toutes les émissions que vous avez pu entendre ici, les chroniques, les dossiers, tout ça, c'est sur loldf.free.fr. À ciao.